Salut à tous, je m'appelle Sacha et je vais vous accompagner pour cette petite heure où les élèves du lycée Horticole de Blois vous parleront d'un sujet à débat, le droit des femmes. Pour débuter cette émission, nous allons tout d'abord parler du travail, où nous allons accueillir Léna qui va nous présenter sa chronique sur les métiers interdits aux femmes au XXe siècle.
Les métiers interdits aux femmes durant le XXe siècle. Tout débute en 1804, alors que Napoléon inscrit dans le Code civil que les femmes doivent rester inférieures et soumises à l'autorité de l'homme, en particulier du mari et du père. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Cette loi a tout de même provoqué l'interdiction aux femmes de posséder le droit juridique qui désigne l'ensemble de plusieurs règles officielles, comme le droit au travail, le droit de vote, le droit à la sécurité, à l'éducation, etc. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car la femme était considérée par les hommes comme des êtres incapables, émotives, faibles et influençables. L'éducation avait construit une société où les hommes dominaient. Et pourtant, les femmes n'ont pas voulu abandonner la lutte contre cette inégalité entre les hommes et les femmes et contre le droit des femmes. Cela s'est notamment manifesté dans le domaine artistique. Souvent ignorées, les artistes femmes ont émergé à la fin du XIXe siècle. Un long combat a dû s'imposer. À partir des années 1860, quelques talents féminins exposent leurs œuvres au Salon de Paris et pourtant, la carrière artistique institutionnelle et l'école des beaux-arts restent toujours officiellement interdits aux femmes. Mais comment la femme a-t-elle pu se convaincre d'acquérir le statut d'artiste professionnel alors qu'elle ne possédait même pas les mêmes droits civils et politiques que les hommes, tout en étant exclue du suffrage universel, enfermée dans un statut discriminatoire par le code Napoléon ? Vu de cette manière, il nous paraît difficile de voir la femme évoluer dans ce milieu. Et pourtant, elles l'ont fait. Les métiers de l'art ont su leur ouvrir petit à petit la porte de leur liberté. Fondée en 1803, l'École nationale de dessin à Paris est la seule institution publique d'art accessible aux femmes, tandis que pour l'École des beaux-arts, il leur faudra attendre 1897. Et encore, celle-ci sera accessible aux femmes de façon restreinte. Et pour les écoles d'art privées, quelques-uns demandaient un tarif double aux étudiantes par rapport à celui des hommes, ou bien encore dans l'école de Camille Claudel, il se peut que le travail de la femme soit repris par le maître. Autant dire qu'au début du XXe siècle, le parcours des femmes artistes était semé d'embûches. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que les femmes bénéficient des ateliers, galeries, musées, journaux, critiques, influents, salons et tout autre chose. Et revenons quelques années en arrière, où les femmes aidaient leurs maris dans divers travaux agricoles. Souvent, elles participaient à la cueillette des fruits et des légumes et faisaient de petits travaux. C'est lors de la Première Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient sur le front, que les femmes étaient mobilisées à travailler dans les usines d'armement. La guerre de 14-18 a entraîné l'obligation pour les femmes de rentrer dans des secteurs jusque-là inconnus pour elles, tels que les métiers de transport ou de l'industrie, qui étaient prioritairement réservés aux hommes. C'est pour cela que certaines femmes ont marqué l'histoire en détournant la loi et en s'engageant dans une lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. La célèbre romancière du XIXe siècle, George Sand, de son vrai nom Amandine Aurore Lucille Dupin de Franceuil, a dû s'inventer un pseudonyme en tant que romancière, George Sand, pour pouvoir publier ses œuvres en toute discrétion. Elle a aussi consacré sa vie à la défense des principes d'égalité et de souveraineté nationale, qui a ouvert la voie aux nombreux combats pour l'égalité hommes-femmes qui ont suivi.
Pourquoi les femmes n'ont pas accès à tous les emplois ? Ceci est un sujet à questions multiples. Et c'est ce que Rachel et Ambre vont nous expliquer dans cette chronique.
Nous nous demandons tous pourquoi les femmes n'ont pas tous accès à certains métiers comme les hommes. C'est pourquoi nous nous demandons quels sont les problèmes. Pour commencer, nous allons parler des préjugés. Il peut y avoir plusieurs sortes de préjugés sur les femmes, comme le fait de penser que les femmes ne sont pas capables de travailler et doivent rester au foyer pour s'occuper des enfants ou de la maison. Tout à fait le cas il y a plusieurs années, mais les esprits ont changé. Les femmes se sont mises de plus en plus à travailler, mais certaines personnes pensent toujours que certains métiers ne sont pas faits pour elles, car les hommes peuvent y arriver, et elles, les femmes, ne sont pas assez fortes. Malheureusement, à cause de ces préjugés, certaines femmes ne peuvent pas accéder à certains métiers, parce que les hommes pensent d'une manière honteuse du fait qu'elles ne sont pas tout à fait capables et sont faibles.
Les femmes et les métiers dans le passé. Avant que les femmes obtiennent le droit de travailler, elles restaient dans leur foyer pour s'occuper de leurs enfants. La famille et entretenir le foyer, pourquoi ? Parce qu'elles étaient jugées trop faibles pour travailler. Mais n'empêche, les hommes ne voulaient tout de même pas que les femmes travaillent sur le lieu de travail. D'un seul coup, la guerre arriva. Et à votre avis, Les hommes ont demandé de l'aide à qui ? Bah, aux femmes. Quel culot ! Alors qu'avant, ils les jugeaient trop faibles. Elles ont prouvé qu'elles étaient tout à fait capables de travailler correctement et qu'elles sont dignes de confiance. Malgré tout, ces préjugés, laisser les tomber et penser que les hommes et les femmes sont tout à fait égales, même dans certains domaines que vous n'auriez pas pensé.
N'oubliez pas, les femmes, vous êtes aussi fortes. Pour terminer, cette question que l'on aborde beaucoup et trop souvent finira peut-être un jour par disparaître, même si, en attendant, elle n'empêche pas certaines femmes de passer au-dessus de ces remarques.
Nous allons maintenant parler de l'accès au travail pour les femmes, où Raphaël, Gabriel et Gwenaël vont débattre sur ce sujet.
Le taux d'emploi des 15-64 ans est de 61,9% pour les femmes et 68,6% pour les hommes. 29,3% des femmes travaillent à temps partiel contre 8,4% des hommes. Près de 10% des femmes actives sont sous-employées au regard de leur diplôme et de leurs compétences professionnelles. Quels sont les 6 droits des femmes au travail ?
Ces droits comprennent le droit de vivre libre de violence et de discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de vote et le droit à un salaire légal.
Pourquoi la femme a le droit au travail ?
Une égalité professionnelle reconnue par la loi. Au 19e siècle, les premières mesures adoptées pour encadrer le travail féminin ont d'abord été des mesures protectrices. Les femmes ont d'abord considéré comme des mères. La loi vise à protéger la mère au travail.
Quel type d'emploi ont les femmes ?
Les femmes occupent majoritairement des emplois moins qualifiés, moins rémunérés et plus précaires, et elles sont sous-représentées dans les secteurs tels que ceux des sciences et des technologies.
Comment les femmes ont eu le droit de travail également ?
En 1938, l'institution d'une prime pour la femme au foyer. En 1939-1940, limitation ou interdiction des emplois publics aux femmes mariées. 1941-1942, les femmes mariées peuvent travailler même si leur mari travaille, à condition de ne pas causer de licenciement.
Merci à vous pour toutes ces informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. Je vais maintenant vous faire écouter un micro-trottoir sur le salaire des femmes, réalisé par Maxence et Tan et Thierry.
On va parler du salaire des femmes comme quoi il serait plus bas que celui des hommes. Est-ce une rumeur ? Une réalité ? Un mythe ? Nous allons en parler tout de suite.
Nous allons interviewer 2-3 personnes sur leur point de vue du salaire des femmes, comparé aux hommes, et ce qu'ils en pensent.
Pensez-vous que le salaire des femmes est moins bien payé que le salaire des hommes ?
Oui, je pense.
Et pourquoi ?
Parce que je trouve qu'il y a de l'injustice dans les lois.
Trouvez-vous ça juste que les femmes soient moins bien payées que les hommes ?
Alors, moi je trouve que ce n'est pas juste, mais dans les pays occidentaux, ce n'est pas trop le cas, on va pas se mentir. La plupart des payes sont faites par rapport aux compétences. Donc si certains hommes sont au-dessus de certaines femmes, c'est parce qu'ils ont des meilleures compétences en général. Donc l'Europe n'est pas trop touchée. Par contre, dans certains pays, en particulier des pays très croyants, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes. Et ça, c'est du vrai sexisme.
Pensez-vous que le salaire des femmes est illégal à celui des hommes ?
Alors, en France, non. Et même, j'ai envie de dire, quasiment partout en Europe. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a certaines stats, par exemple, 27% d'inégalité entre les hommes et les femmes, ou 18%. Alors, ces stats sont vraies, mais elles ne prennent pas en compte plusieurs facteurs. Elles ne prennent pas en compte l'effet des temps partiels, l'effet de répartition des métiers, donc quand il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans le même métier. Elles ne prennent pas en compte l'effet de structure à métier équivalent, donc l'étude est plutôt incomplète, mais il existe une étude très sérieuse qui prend en compte tous ces facteurs. C'est l'étude de Korn Ferry, et dans cette étude, les inégalités salariales entre hommes et femmes passent de 27% en France à 2,7%. Oui, donc en gros, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 2,7% en France, qui est quasiment rien. D'ailleurs, on remarque, la France est un pays plutôt égalitaire. Et d'ailleurs, si les entreprises pouvaient payer moins cher les femmes, pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas que des femmes ?
Est-ce que vous trouvez juste que le salaire des femmes soit moins bien payé que celui des hommes ?
Non, je trouve que c'est de l'injustice. Malheureusement, ce n'est pas un mythe, les femmes ont bel et bien un salaire plus bas que les hommes depuis toujours. Mais dans certains métiers, une amélioration se fait depuis 1972.
Et petit instant de pause, nous allons écouter une musique réalisée par un grand chanteur, Grand Corps Malade, avec Mesdames.
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Mais sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Influence notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Maëlys et Aline vont nous présenter une série de témoignages sur les injustices faites aux femmes.
Bonjour à tous, nous sommes Maëlys et Aline et nous allons vous présenter les injustices faites aux femmes. Nous avons pu recueillir plusieurs témoignages au sein du lycée horticole de Blois auprès de surveillants, de professeurs et d'une AESH.
La question était la suivante. Avez-vous été témoin d'injustices faites aux femmes pour les hommes et avez-vous été victime ou témoin d'injustices faites aux femmes pour les femmes? Commençons sans plus attendre avec notre premier témoignage.
Moi, je devais avoir 6 ans, à peu près. Et je sais qu'on s'amusait à soulever mes jupes et tout. Du coup, maintenant, je ne peux plus vraiment en porter en soi.
Mon ancienne patronne, quand j'ai annoncé ma grossesse, a dit qu'après moi, elle prendrait de préférence un homme ou, au pire, une femme ménopausée.
Oui, j'ai été témoin d'injustices faites aux femmes, notamment, justement, quand on parle de justice. J'ai eu une amie qui a été agressée sexuellement. Et la justice est extrêmement lente lorsqu'on porte plainte sur les viols ou les agressions sexuelles. Et c'est vraiment triste à voir, parce qu'on voit que tout évolue aujourd'hui dans la société, mais au niveau de la justice, toujours pas. C'est toujours extrêmement lent. Et je trouve ça tout à fait déplorable.
Alors, ce qui me concerne, j'ai déjà été témoin d'injustices faites aux femmes dans le cadre de concours ou même à l'université par rapport à leur tenue. Elles sont souvent critiquées pour leur tenue vestimentaire, avec des remarques sexistes, souvent venant d'hommes. Donc oui, j'ai déjà entendu ce genre de propos.
On m'a déjà dit le lendemain d'une soirée, quand un garçon était trop insistant et que je l'ai repoussé, on m'a dit que première question qu'on m'a posée, c'est « Comment t'étais habillée ? C'est toi qui l'as cherché ou pas ? Est-ce que tu l'as chauffé et tout ?» Des choses comme ça. Mon copain m'a raconté il n'y a pas longtemps, c'est son chef de service qui lui a dit qu'il ne voulait plus du tout de filles qui viennent le soir, des choses comme ça, ou même pendant les temps de travail, parce que, je cite, ça les excite de trop, ce qui fait que ça les déconcentre dans leur boulot.
Moi, je sais que j'ai eu des élèves, filles, qui ont eu du mal à trouver des stages, notamment en agriculture, parce que c'était des filles. Et qu'ils préféraient embaucher les garçons.
J'ai déjà entendu un homme dire à une femme que c'était à elle de faire les tâches ménagères pendant que lui regardait le foot à la télé.
Il m'est arrivé de me faire siffler alors que j'étais sur un trottoir tranquille à me promener. Deux hommes sont passés en voiture décapotable et m'ont dit des choses pas très gentilles. Voilà.
Suite à tous ces témoignages d'hommes et de femmes, nous pouvons nous apercevoir des progrès à faire concernant les femmes du XXIe siècle.
Continuons à nous battre pour que ces injustices ne soient que du passé.
Nous allons maintenant parler d'un sujet qui pèse énormément sur les femmes, les préjugés sexistes. Et c'est Noah, Léonie et Chloé qui vont nous en parler.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des préjugés sur les femmes, mais qui de mieux pour parler de ça que les femmes et les hommes eux-mêmes ? Alors nous sommes allés faire un micro-trottoir.
Bonjour, que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Malheureusement, les préjugés sur les femmes existent et il y en a beaucoup, mais il faut lutter contre.
Et est-ce que vous avez des préjugés sur les femmes ?
J'en ai comme tout le monde, j'essaye de lutter contre aussi.
Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Eh bien, je pense qu'avec les générations qui arrivent, on a de moins en moins de préjugés à propos des femmes et que les choses sont en train d'avancer dans le bon sens.
Et est-ce que vous avez des préjugés sur les femmes ?
Je ne crois pas en avoir, en tout cas, je suis pas conscient d'en avoir.
Que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Alors, les préjugés sur les femmes, malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des temps très très anciens. Je trouve ça déplorable et j'espère que vous, cette nouvelle génération, vous allez faire avancer les choses. C'est ce que j'attends le plus de vous. Moi, je fais partie d'une génération où il y a eu de l'évolution par rapport à ça, mais on sent quand même que c'est un peu difficile de faire avancer ce genre de remarques. Alors, par exemple, moi, j'ai pas été victime directement de ce genre de préjugés, victime dans le sens où ça aurait pu impacter ma vie et ça aurait pu impacter mon déroulement professionnel. J'ai la chance d'être dans la fonction publique, on est un peu moins impacté, mais on va prendre quelque chose qui... Alors je déborde peut-être un petit peu, mais c'est tellement d'actualité. On est sur les grèves qui arrivent, et notamment jeudi, donc après-demain, on a un grand mouvement de grève. On va réfléchir un petit peu à ce que seront nos retraites dans quelques années. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est les femmes qui vont être le plus impactées. C'est elles qui seront impactées. Donc, encore une fois, les femmes vont être victimes de préjugés, parce que c'est une forme de préjugé de considérer qu'une femme, au niveau de sa retraite, elle aura un impact. Par sa carrière professionnelle, par son déroulement de vie. Donc les préjugés, oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours, mais à des niveaux et des degrés différents.
Que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Que c'est mal.
Est-ce que vous avez déjà été victime de préjugés ?
Oui, beaucoup de fois.
Comme quoi, par exemple ?
Qu'en tant que femme, j'allais être bonne à rien, des choses comme ça. Que certains métiers sont plutôt réservés pour les hommes. On m'a déjà fait comprendre des choses comme ça, que j'étais faible. Ah oui, et que aussi, entre guillemets, que je pouvais déconcentrer les hommes si je venais intégrer certaines équipes.
Avez-vous des préjugés sur les femmes ?
Oui, malheureusement, on a tous des préjugés sur les femmes à cause de notre culture, de notre éducation. Et moi, j'ai été éduqué avec un père qui était autoritaire et qui avait aussi... Voilà, plein d'autorités, plein de préjugés sur sa femme. Donc il me les a un petit peu transmises, mais j'essaye de lutter contre ce qui m'a légué. Voilà, très bien.
Bonjour, que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Ben, les préjugés sur les femmes, c'est comme tous les préjugés ou tous les stéréotypes. C'est un jugement hâtif lié à une apparence, à un genre... Et inévitablement, c'est loin de la vérité. Moi, je déteste les préjugés et les stéréotypes, mais je ne peux pas nier non plus le fait qu'on soit tous en prise avec ça. Quand on voit quelqu'un, on applique une forme de préjugement qu'il faut relativiser. Donc, il faut utiliser son cerveau, se demander pourquoi on pense cette chose-là, pourquoi on a ces préjugés-là, de manière un petit peu à les défaire. Et on en a plein. Donc, penser qu'on arrivera à lutter tout à fait contre et à vivre sans préjugés, c'est idéaliste. En revanche, ça reste un chemin vers lequel aller. Donc lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Alors pour ce qui concerne les femmes, parmi tous les préjugés que je pourrais avoir en tête et qui sont maintenant bien désuets, je pense, la femme est plus sensible que l'homme, c'est une vaste connerie, hein. Pardon, une bêtise. Je pense que chaque humain est porteur d'émotions. Après, un humain, il se construit dans un modèle éducatif. Et ce modèle éducatif, qui vient à la fois des parents et de la société, nous amène à nous conformer à une certaine idée d'une façon de faire ou d'être. On est enfermé dans ces imageries-là et on peut s'interroger soi-même sur la façon dont qu'on a d'habiter notre genre, notre façon d'habiter notre métier, notre façon d'habiter notre culture et puis de relativiser, utiliser surtout notre cerveau. En fait, le cerveau, c'est sans doute le meilleur outil contre les préjugés.
Bonjour, que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Bonjour, mais je pense qu'il y a trop de préjugés sur les femmes et qu'il ne devrait pas y en avoir parce qu'on est toutes différentes.
J'aurais une deuxième question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été victime de préjugés ?
Dans mes souvenirs, il me semble que oui, mais je ne saurais pas ressortir lesquels.
Bonjour, que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Eh bien, on est encore dans un temps où il y a encore beaucoup de machistes, donc beaucoup on voit que par l'homme. Et les préjugés, on en a beaucoup, aussi bien au niveau de la force, niveau du sport ou autre, alors que maintenant, il y a des femmes quand même qui sont très musclées, très indépendantes. Mais il y a aussi tout ce qui est voie du travail. Il y a encore beaucoup, beaucoup là-dessus à faire, car... il y a encore des postes à responsabilité que des femmes pourraient faire et qu'on, par préjudice, on les donne aux hommes.
Et est-ce que vous avez déjà été victime de préjugés ? Ouais.
Alors moi, j'ai été préjugée surtout par rapport à ma taille, car comme je suis une femme de petite taille, mais je vous ai vite démontré que ça pouvait être devant et j'ai même été chef d'entreprise, donc là, les préjugés, tant pis pour eux.
Bonjour. Que pensez-vous des préjugés sur les femmes ?
Bonjour. Donc, je trouve ça inadmissible, je crois, parce qu'on ne doit pas avoir de préjugés sur une femme, sur un handicapé, sur n'importe quoi. On doit vivre avec la personne et avec les personnes. Et pour moi, il n'y a pas de sexe.
Avez-vous des préjugés sur les femmes ?
Aucun préjugé. Pour une femme, pour moi, c'est quelque chose de fragile, de... qu'on apprécie, mais il n'y a pas de préjugés de travail ou quoi que ce soit. Un homme, une femme, pour moi, c'est l'identique.
La plupart des femmes que nous avons interrogées ont déjà été victimes de préjugés, souvent par des hommes. Cela montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Et encore un petit instant musical, et nous allons écouter « Si j'étais un homme » de Sheila.
Comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments.
Je ferai des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Les tâches ménagères, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table et c'est Maëlle et Chloé qui vont nous en parler.
Bonjour, nous sommes Maëlle et Chloé de seconde CVPA du lycée Articole de Blois. Nous allons aborder la question de la différence entre les hommes et les femmes dans les tâches ménagères en interrogeant des personnes de notre lycée. Nous voulons parler de cela car nous pensons que les femmes devraient être égales aux hommes dans les tâches ménagères.
Selon une étude, 70% des femmes font des tâches ménagères, alors que les hommes font que 30%. Qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense que c'est pas équilibré, déjà. Alors, c'est comme toutes les moyennes. J'imagine que par endroit, c'est vraiment 0% des hommes dans des familles. Et puis, dans d'autres endroits, on est sur du 50-50. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à accomplir pour arriver à une égalité de partage des tâches à la maison. Alors, on parle des tâches ménagères. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on pourrait aussi parler du bricolage ? Enfin, d'une manière générale, c'est comment on pense la vie familiale dans des positionnements de genre. Et la question là-dedans, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à remettre en question son propre positionnement dans son genre, qui lui-même est la conséquence de sa propre éducation. Très certainement qu'être élevé, enfin en tout cas naître en 2020 ou naître en 1970, c'est pas la même chose. C'est pas la même éducation, c'est pas la même société, et les parents n'éduquent pas leurs enfants de la même manière. Donc je pense qu'on éduque aujourd'hui pas un homme ou un jeune homme ou un jeune garçon comme on pouvait éduquer un jeune garçon en 70 et de la même manière pour les jeunes femmes. Donc c'est le boulot des parents, en fait, d'essayer de défaire les stéréotypes qui les animent et les préjugés autour de la place de l'homme et de la femme. Ça passe par les jouets aussi. Pourquoi se fait-il que à une petite fille, on va encore offrir des poupées et non pas des produits des jeux de bricolage et inversement. Quels sont ces stéréotypes qui nous animent ? Et je pense que le jouet est bien moins anodin que ce qu'on pourrait penser. En vérité, on enferme l'enfant dans des jouets genrés, dans des jeux genrés, et d'une certaine manière, on le contraint à se dire que ben, si je joue pas à ça ou si j'ai pas envie de jouer à ça, alors est-ce que je suis vraiment dans mon genre ? Est-ce que je suis bien dans ce genre-là ? Ça commence là. Et c'est vrai aussi par l'exemple. C'est-à-dire qu'un enfant, il voit, avant d'entendre les règles que la maman et le papa donnent à l'enfant, il voit, il fonctionne beaucoup par mimétisme. Et en fait, c'est l'exemple des parents. Donc, cette distribution des tâches et des rôles, ce partage-là, il se joue à la fois dans l'éducation qu'on confie aux enfants, évidemment, dans les modèles que propose la société. Donc, il faut réussir à utiliser son esprit critique et re-questionner comment soi-même on se sent dans notre genre.
Est-ce les femmes ou les hommes qui font le plus des tâches ménagères chez vous ?
Chez moi ? J'ai pas la vérité ultime et unique, hein. Je pense qu'il faudrait que mon épouse soit là pour qu'on puisse en parler. Mais j'ose espérer que c'est moitié-moitié. Pendant un temps, comme moi, j'ai beaucoup vu ma maman souffrir en faisant beaucoup, beaucoup le ménage à la maison, j'ai pris le parti pris inverse, c'est-à-dire de faire beaucoup le ménage, de faire beaucoup les tâches ménagères, d'aller chercher les courses, de faire à manger, de faire la lessive. Donc ça, c'est des tâches que j'ai beaucoup, beaucoup remplies. Trop, sans doute. Donc du coup, on a un petit peu rééquilibré les choses. J'espère qu'on est sur du 50-50.
Quelles sont les tâches ménagères que vous faites chez vous ?
Je fais le ménage, je fais les courses, je vide le lave-vaisselle, je fais la vaisselle, je fais les lessives, j'étends le linge, je plie le linge, je le range. Il m'arrive de changer les draps, je vide les poubelles, évidemment, je les remplis aussi. Je fais le compost, j'emmène le tri au collecte. Ben, en fait, à peu près tout. Je participe à tout. Ça ne veut pas dire que je fais tout. Mon épouse en fait tout autant, mais on alterne. En fait, on n'a pas de fait en fonction de la capacité de l'autre à faire ou de pas faire. Je fais la cuisine aussi, et puis on a un service aussi. On répartit les tâches à la maison, qui met la table et qui démêle la table. Donc ça, c'est avec les enfants plutôt.
Selon une étude, 70% des femmes font des tâches ménagères, alors que les hommes font que 30%. Qu'en pensez-vous ?
Première question, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup plus de femmes qui font
le ménage que les hommes.
Mais
d'un côté, je pense que ça devrait changer aussi cette façon
de penser, que ça devrait être le contraire, que devrait y avoir des hommes qui fassent aussi le ménage, même si on est un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, hein, et que les mentalités commencent à changer, mais je pense que c'est vrai que c'est les femmes qui font beaucoup plus le ménage.
Est-ce que c'est les femmes ou les hommes qui font le plus de tâches ménagères chez vous ?
Pour ta deuxième question, c'est moi qui fais toutes les tâches ménagères chez moi, parce que chez moi je suis tout seul. Donc du coup je m'occupe de la lessive, du linge, du repassage, du lave-vaisselle, enfin toutes les tâches ménagères qu'il y a à avoir.
Quelles sont les tâches ménagères que vous faites chez vous ?
Je fais toutes les tâches ménagères qu'on peut retrouver dans une maison normale, hein, c'est-à-dire le balai, la serpillière, la vaisselle, la lessive, le repassage, et puis etc. quoi, tout ce qu'on peut trouver à faire dans une maison, quoi.
Nous pouvons conclure que beaucoup de personnes veulent l'égalité homme-femme dans les tâches ménagères.
Et si on inversait les rôles, c'est justement Nathanaël qui nous présente un film, Les Croquants.
Bonjour à tous, je m'appelle Nathanaël Larouille, je vais vous présenter mon reportage et interview du film documentaire Croquant. Je vous laisse avec l'interview. Il n'y avait pas d'hommes pendant les stages, pourquoi ?
Alors, donc moi j'ai eu la chance d'animer un groupe en non-mixité choisie d'agricultrices. Ils souhaitaient en effet se retrouver sans la présence de leurs collègues masculins, pouvoir parler de manière libre de leur quotidien et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer en tant que femmes dans le métier, sachant qu'elles travaillent le plus souvent avec des hommes ou qu'elles côtoient de toute manière des hommes dans leur quotidien, et que la présence d'un homme, qu'il soit bienveillant ou pas bienveillant, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, ça transforme la posture et la parole des femmes. Elles se sentent pas aussi libres exposer les problématiques qu'elles rencontrent dans leur vie.
Au sein du documentaire, quel rôle vous aviez ?
Alors moi, dans le documentaire, donc on voit que mon travail d'animatrice du groupe, qui consiste en fait à organiser les temps collectifs, que ça soit des formations ou des moments d'échange, pour pouvoir répondre aux problématiques individuelles de chacune des agricultrices dans leur ferme et en même temps mener des projets collectifs. Et puis j'ai également les réalisatrices ont proposé de faire la voix off du film et un peu le fil conducteur de l'aventure pour que les spectateurs et spectatrices puissent bien comprendre tout le processus au long du documentaire.
D'accord, donc vous faites aussi la voix off.
C'est ça. C'était une aventure intéressante à faire, j'avais jamais fait ça, donc elles m'ont dit voilà, on aimerait qu'il y ait des voix off entre tel passage et tel passage. Elles m'ont demandé si je voulais écrire les voix off, ce que j'ai fait, et ensuite on a fait des prises de son. Et il y a certaines prises où j'ai dû me reprendre à 7 ou 8 fois pour arriver à avoir le ton qu'elles voulaient.
Oui, c'est voilà. Sûr que c'est pas forcément simple.
C'est ça, mais c'était chouette à faire, j'ai bien aimé.
Votre voix a-t-elle été entendue ?
Alors, notre voix, la voix des agricultrices dans le film ?
Oui.
Alors, y a pas mal de choses qui bougent et qui se passent. Ce qui est certain, c'est qu'elle est entendue de pas mal, de nombreuses femmes rurales et agricultrices ou paysannes. Le film, là, il est projeté un peu partout en France, dans des projections accompagnées. Là, on est à peu près à une cinquantaine de projections. On est allé dans 8 régions différentes et plus de 24 départements, donc ça fait du monde. Oui. On a eu à peu près 5000 spectateurs, spectatrices en salle, donc qu'on a rencontrés. Et ce qui est certain, c'est qu'on est entendu des agricultrices. Elles reviennent nous voir et nous disent vraiment que ça correspond à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles ont envie de transformer dans leur vie. Et ça fait qu'on a pas mal de retours, comme quoi il y a des groupes non mixtes, comme celui qui est mis en valeur dans Croquante, qui démarrent un peu partout, dans des endroits où il n'y en avait pas, ou des groupes qui existaient puis qui étaient un peu en baisse de dynamique ou avec peu de participantes, qui se voient de nouveau contactés par plein d'agricultrices. Donc de ce point de vue-là, c'est super, puisque c'est ça un de nos objectifs, c'est que les femmes se regroupent, s'organisent entre elles et puis puissent poser leurs besoins et trouver des solutions pour y répondre. Après, au niveau des organisations professionnelles agricoles, on sent que ça bouge aussi un petit peu, notamment dans le réseau des CIVAM et le réseau des ADA. Donc les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, et les ADA, c'est des associations qui sont un peu les associations de développement liées à la Confédération paysanne. D'accord. Il y a beaucoup de groupes donc qui naissent un peu partout, et il y a une organisation nationale qui fédère les groupes, qui permet de leur mettre à disposition des outils, des financements pour qu'elles puissent se retrouver, se coordonner et fonctionner ensemble. Et donc il y a 10 ans, il y avait moins d'une dizaine de groupes, et aujourd'hui elles sont plus d'une quarantaine à être en réseau. Donc force. Et donc le fait qu'elles sont nombreuses à être en réseau, ça fait que les organisations professionnelles agricoles commencent à être un petit peu obligées à voir que il est temps de faciliter l'accès au foncier, au capital des femmes pour qu'elles puissent s'installer. Et puis dans les fermes, il y a aussi des choses qui changent avec des rediscussions sur la distribution des tâches, sur la gestion du domestique pour que et les hommes s'approprient plus ces espaces-là, donc c'est plutôt très chouette.
D'accord, c'est bien si plein de groupes naissent au sein des différents départements en France.
C'est ça. Etc. C'est très encourageant.
Et bien entendu, et que ça fonctionne.
C'est ça.
Et êtes-vous satisfait du documentaire en lui-même ?
Alors, moi, beaucoup. En fait, je suis très admirative du travail de Tessie Lopez et Isabelle Mandin, là, les deux co-réalisatrices.
Oui.
Parce que je trouve que le film est très beau. Il est très esthétique.
C'est vrai.
On voit bien nos paysages de Loire-Atlantique qui sont quand même jolis. Moi, j'aime beaucoup les champs quand il y a des rounds de paille et de foin dedans. Je trouve ça vraiment très beau, avec des grands ciels. On voit aussi du bocage. Voilà. Et puis, il y a un côté immersif. C'est du cinéma direct. On voit bien qu'elles n'ont pas... il n'y a pas de mise en scène, quoi.
Oui, oui.
C'est vraiment nous. Et donc ça, c'est très réussi. Donc oui, moi, je suis très satisfaite du film. Puis ce qui suscite, là, hier soir, par exemple, il y avait une projection à Châteaubriand. La salle était pleine. On avait 150 personnes. Et les échanges à l'issue du film ont été très, très riches. On a beaucoup de retours de gens qui ont trouvé ça très pertinent, que ça faisait vraiment réfléchir sans être agressif. Donc voilà, pari réussi et très beau film pour moi.
Ayant vu le film, je trouve vraiment sympa aussi le documentaire. C'est vrai qu'on comprend bien la problématique qui est énoncée dans le documentaire, du fait que ce ne soit pas forcément égaux au sein de l'agriculture.
Dans la société en général,
oui,
de toute
vrai,
manière, voilà. Et l'agricole n'y échappe pas, mais comme c'est encore un secteur d'activité dans lequel on travaille beaucoup en famille,
oui.
71% des fermes aujourd'hui sont des fermes dites familiales, donc ça veut dire qu'il y a un lien de parenté entre les gens qui y travaillent, que ce soit des frères et sœurs, des couples, des pères et fils, mères et fils, voilà. Et donc, il y a des enjeux un peu... différent de quand on travaille avec des gens qui ne sont pas de sa famille.
Oui,
ça vient rajouter des difficultés, entre guillemets, pour faire bouger les choses, parce qu'on met en jeu, pas que son travail, on met en jeu un peu toute sa vie, en fait.
Oui, c'est peut-être une question hors contexte, mais quel sentiment vous avez par rapport au salaire des hommes et des femmes,
femmes Bah, moi, je trouve ça parfaitement injuste, hein. Clairement, que les femmes soient moins rémunérées que les hommes et qu'elles aient plus d'emplois à temps partiel. Alors, ça me gêne si c'est subi. Dans mon cas, par exemple, moi, je suis à temps partiel de manière choisie. Donc, je ne me plains pas du tout de ma situation. Mais oui, je trouve que c'est parfaitement injuste qu'on ait des écarts de salaire juste parce que on est né avec un sexe biologique différent, quoi. Ça me paraît complètement aberrant. D'autant que les femmes, en fait, font beaucoup de travail qu'on dit gratuit. En 2023, on a encore quand même les femmes qui portent plus que les hommes tout ce qui va concerner la vie domestique, tout ce qui va être les soins et l'organisation autour des enfants, le ménage, la cuisine, les courses, la santé, la gestion de la santé familiale, etc. C'est beaucoup, beaucoup les femmes qui portent ça. Et c'est ce travail-là, il est fait gratuitement dans le cadre de la famille. Et c'est aussi à cause de ça que souvent, malheureusement, elles peuvent pas travailler à temps plein, même si elles le souhaiteraient pour certaines, ou alors qu'on va les discriminer en les payant moins, en disant « bah oui, mais vous êtes moins disponible parce que vous avez la famille à gérer ». Or, une famille, ça se construit au moins à deux, et donc il n'est pas du tout normal que ça repose, qu'il n'y ait qu'un seul membre de la famille, du couple, soit pénalisé.
Oui, voilà. Que l'autre soit rémunéré.
Bah ouais, et puis en plus, les hommes, ils ont aussi plus de capital, c'est-à-dire plus de propriété, d'argent personnel que les femmes, et ça, inadmissible en fait. C'est bon, on est en 2023.
Oui.
Peut-être fonctionner différemment, ça serait pas mal. Il est grand temps.
Oui, c'est vrai.
Camille Claudel, vous avez déjà sûrement entendu ce nom, et c'est Aurore et Noémie qui vont nous parler de cette personnalité.
Connaissez-vous Camille Claudel ?
Non, je sais qu'il y a un lycée à Blois, mais c'est tout.
D'accord, merci. Connaissez-vous Camille Claudel ?
Oui, de nom, je sais que c'est une sculptrice qui a été internée, je crois, à la fin de la Première Guerre mondiale, mais j'en sais pas beaucoup plus.
Connaissez-vous Camille Claudel ?
Non, je la connais pas.
Vous, Camille Claudel ?
Non.
D'accord, merci.
Puisque personne n'a l'air de connaître Camille Claudel plus que ça, nous allons vous raconter son histoire passionnante. Née le 8 décembre 1864 dans la Ferry en Tardenois, elle rêve de devenir sculptrice, mais pour l'époque, c'est inconcevable, voire même scandaleux.
Mais Camille n'écoute rien. Elle est alors âgée de 17 ans quand elle se lance dans l'aventure à corps perdu. Deux ans plus tard, elle rencontre Auguste Rodin, grand sculpteur.
Ébloui par son talent, il accepte de la prendre comme élève et bientôt comme maîtresse. On ne parlera pas de cet écart d'âge des plus colossales.
Cette liaison passionnée et orageuse dura 15 longues années, mais Camille en ressortit épuisée et vaincue, car Monsieur Rodin était très jaloux et très possessif. Elle n'arrêta pas pour autant. Elle continua son art jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale. À la mort de son père, la chère procréatrice de Camille fait pression sur son fils, Paul Claudel, écrivain, pour qu'il enferme sa sœur dans un asile et ce dernier obéit à sa vieille mère.
Camille fut donc enfermée dans l'asile de Montéverge. Après 30 ans enfin, en enfer, elle mourut dans d'atroces souffrances, seule et isolée à cause de la famine.
Malheureusement, Camille Claudel est loin d'être la seule à être morte abandonnée dans un asile pendant les guerres. À vrai dire, elle est l'une parmi des dizaines de milliers. C'est ainsi que Camille a dû se battre toute sa vie pour un honneur qui reviendra finalement à Rodin, qui mourut à l'âge de 77 ans, quelques mois après avoir épousé une autre femme.
Petit intervalle musical où nous allons écouter une musique sur Camille Claudel réalisée par plusieurs chanteurs.
Les valses étaient là, sorties des collections de ces particuliers qui jamais ne s'émurent d'avoir participé, quelle qu'en fût la façon, à la curée d'une vie, au pillage des murs, d'où on t'a enlevé pour te cloîtrer ailleurs. Ce mouvement des âmes que tu lies à la danse, l'envol de tes amants, le marbre que l'on blesse, c'est l'idée de la mort liée à l'espérance. C'est un des paradoxes que l'implorante laisse. Une valse génère autant qu'elle sépare. À tourner sur moi-même, je muse la raison. Je crois que je gravite autour d'un astre noir. Je rentre dans le feu d'une valse hésitation. Déjà morte, Camille, lors même quand ton cœur, il n'est nulle fortune que l'un d'entre vous meurt. Le groupe apollinien se ferme sur lui-même, puis s'ouvre au mouvement, se contient, puis explose, puis explose. C'est à la volupté que le drapé m'emmène. Je m'emmure vivant. Et mon corps sans qu'il ose. Et mon corps sans qu'il ose.
Valse, valse.
fait-il, sans jamais accepter que quand vivre fatigue, aimer maintient en vie. Qu'à deux pas des brillants, dans la sylve cachée, c'est lui qu'elle désignait, sans même qu'il la vit. Valse s'offre à moi, et moi je veux te rendre ce que tu m'as donné et te faire revivre, apaisé de tes maux, ranimé de tes cendres, mais l'usine rétive qu'à jamais je délivre, sans rien te demander que ton regard d'opale et le droit de rester à vie dans cette salle. Vain, Camille, que l'on s'appropria, et ton âme, et ta mort, et tes marbres nerveux. Au-delà de tous ceux qu'en ton temps tu sculptas, tu survis à tous ceux que pourtant tu aimas, mais qui t'ont enfermé, aliéné, peu à peu. Pas de recueillement, mais pour tout testament une reconnaissance. Tes dos courbes, serrés, nous mènent en une ligne qu'une vie, même un signe, ne saurait pas quitter. Nos vies calmes, vouées à suivre tes danseurs, au mouvement ancré dans l'esprit de chacun, comme on suit dans la nuit une femme qu'on vient de croiser dans la salle qui les voit et qui pleure. Elles sont celles, Camille, que tu n'as jamais eues. La gabelle de ceux que ton art a aimé. Il faudra bien un jour que Rodin reconnaisse qu'il n'eût jamais fallu que tu le prisses, lui, et que s'il t'a perdu, à sa place, on ne cesse d'absolument vouloir te retrouver. Bien soufflé qu'il est tard et qu'il faut consentir à faire d'une valse une valse effrénée, la valse des adieux. Il n'y a rien de pire. Je laisse tes amants s'animer dans le noir, être arc-boutés retrouvant un éclat. Je sais qu'ils te demandent, quand t'approches le soir, te raconter un peu comment tu engendras une union divine qui fait que le matin, une ombre va griffer le buste de Rodin.
D'où vient une pareille férocité? Vous qui connaissez mon attachement à mon art, vous devez savoir ce que j'ai dû souffrir, du rêve que fut ma vie, ce ciel cauchemar.
Pourquoi certaines femmes ont-elles peur des hommes? Lana et Kenza nous ont préparé une série de témoignages.
Nous sommes Lana et Kenza en seconde CEPA et nous allons vous parler de la peur des hommes chez certaines femmes. Nous avons fait un micro-trottoir de personnes qui n'ont pas souhaité être enregistrées ni révélées. Nous parlerons alors pour eux en anonyme à l'encontre d'une source qui nous avons pu enregistrer et l'avis de la psychologue de notre lycée.
Donc, selon toi, pourquoi certaines femmes ont peur des hommes?
Je pense que certaines femmes peuvent avoir peur des hommes parce qu'elles ont eu des expériences dans leur enfance ou dans leur adolescence, ou même des expériences plus récentes d'adultes, mauvaises. Ça peut être graves, d'être battue ou avoir vu d'autres femmes se faire battre. Une enfant, par exemple, qui voit sa maman se faire battre, plus tard, elle aura certainement peur des hommes. Je pense également aux violences sexuelles, les violences psychiques, les violences verbales, les violences physiques, évidemment. Voilà pourquoi une femme pourrait avoir peur d'un homme, ouais. Si elle a été abusée, de quelque manière que ce soit, dans son enfance. Voilà, c'est ce qui pourrait faire qu'une femme a peur d'un homme.
D'accord, merci.
Une source anonyme nous a révélé que, peut-être à cause de leur physique, qui peut en quelque sorte tenter les hommes, qui pour la plupart sont tentés à une altercation et peut effrayer les femmes. La plupart des hommes garçons de nos jours ne sont pas délicats dans leurs paroles auprès des femmes. Dans la rue aussi, par exemple, elles auront plus tendance à se méfier, à avoir peur quand elles voient un homme que lorsqu'elles voient une femme. Ce qui les rend les sorties nocturnes plus compliquées pour les femmes et les filles. que pour les hommes.
D'après la psychologue, elle a connu des gens qui avaient peur des hommes. Et malheureusement, elle en connaît de plus en plus jeunes. Pour donner une tranche d'âge, on partirait sur les 15 ans. La majorité des femmes ayant peur des hommes seraient des femmes battues ou victimes de violences conjugales.
Un autre anonyme nous a révélé que les hommes ont souvent des attitudes déplacées et vulgaires envers les femmes. Et maintenant, les garçons s'y mettent aussi, car ils sentent leurs droits, ce qui effraie les femmes et les jeunes filles.
En conclusion, certaines femmes et filles peuvent avoir peur des hommes à cause de toutes sortes de violences qu'ils leur ont causées, comme des violences physiques, que ce soit sexuelles, les attouchements ou le viol, ou par coup, de la part de connaissances, conjoints, famille, inconnus, ou de violences morales, insultes, critiques, rabaissements et autres, le harcèlement moral, physique, ou même un traumatisme dû par un homme.
Et encore un petit instant musical où nous allons écouter « N'insiste pas » de Camille Lelouch.
Quand je me lance et que tu penses m'arrêter, n'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition, n'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Ou que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête.
Élise, Manon et Kylian vont nous parler du regard des hommes envers les femmes sous une forme de débat.
Bonjour, nous allons vous présenter un débat sur le regard des hommes sur les femmes. Pour ça, nous avons interviewé des personnes du lycée Horticole de Blois, de tout âge.
Est-ce qu'une femme, selon vous, peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Bah oui, pour moi, elle peut s'habiller comme elle le souhaite. Si on décide qu'une tenue est bien ou qu'on se sent bien dedans, c'est pas aux autres de nous dire qu'elle est vulgaire.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Bah, pour moi, je dirais que oui. Après, il y a toujours certaines femmes qui doivent être contraintes à porter... contraintes en soi, mais pour moi, j'arrête tes questions.
Est-ce que, selon vous, une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
A priori, j'ai envie de dire oui, mais après, voilà, il faut savoir que collectivement, parfois, ça peut être très difficile, ça peut voire même être dangereux pour des femmes de s'habiller, par exemple, on va dire, sur un mode sexy, dans des endroits ou des lieux où ce serait très mal vu, voire pas toléré du tout. Donc voilà, je pense que a priori, elle peut s'habiller comme elle veut, mais il faut faire attention à l'environnement, en fait, pour pas être embêtée.
D'accord.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Selon moi, c'est encore un peu difficile. Faut encore faire un peu bouger les mentalités. Encore une fois, ça dépend de l'environnement. Dans les grandes villes, c'est quand même plus facile pour les femmes de s'habiller comme elles veulent, comme elles le souhaitent. Alors que dans le monde rural, c'est encore un peu compliqué. Ça peut être mal vu. Certaines tenues peuvent être un peu mal vues.
Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Ah bah oui, bien sûr. Une femme peut s'habiller comme elle le souhaite. Et j'ai envie même de dire qu'un homme doit pouvoir s'habiller comme il le souhaite, dans la mesure où il respecte la loi, notamment en matière d'atteinte à la pudeur, etc. Pourquoi ? Mais parce que c'est une liberté fondamentale, en fait. Et que dans les libertés fondamentales que défendent les lois de la République, il faut autant que possible pouvoir en user. Alors bien évidemment, s'habiller, c'est aussi mettre en jeu le social, c'est-à-dire le regard de l'autre. Et par moment, quand on intègre le regard de l'autre, on n'est pas forcément aussi radical que ça, ou aussi radicaux que ça. Je prends des exemples tout bêtes, hein, mais dans un cadre professionnel, par exemple, on a des contraintes qui sont liées à la fonction qu'on occupe et au regard que le client ou les collègues vont avoir sur soi. Donc on doit tenir compte de ces choses-là. Il y a des codes vestimentaires qu'on doit pouvoir emprunter. Après, lorsqu'on sort, il est préférable d'être couvert lorsqu'il fait froid. Voilà, et on ne met pas une doudoune lorsqu'il fait chaud. Et puis après, lorsqu'on sort dans des endroits qui peuvent être à des heures qui sont un petit peu difficiles, c'est vrai que c'est toujours préférable d'éviter de prendre des risques. Alors, il y a tout un tas de contraintes qui sont sociales, mais en soi, elles ne sont que liées au contexte. En revanche, les libertés fondamentales sont ce qu'elles sont.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
En théorie, elle devrait. Mais comme j'habite un pays qui s'appelle le pays pratique, et que même si la théorie est importante, hein, puisque c'est quand même une forme d'idéal, en pratique, j'ai bien conscience que non. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont parfois culturelles, parfois géographiques, parfois contextuelles, qui empêchent ou qui limitent ces libertés-là. Rien que le fait d'y réfléchir et d'en parler sont déjà tout un tas de choses qui permettent d'avancer et d'aller vers cet idéal, cette théorie qui peut-être, et je l'espère, un jour pourront, seront véritablement actifs et qu'on se posera même plus la question. Pour autant, même si on est dans une démocratie avec des libertés fondamentales, comme je le disais tout à l'heure, ma liberté à moi de personne, c'est aussi de regarder les autres. Et quand je regarde les autres, j'ai aussi envie d'être respecté dans ce que m'offrent les autres. Si je vois une personne qui est complètement nue et que moi-même je suis très pudique, j'ai envie que ma liberté de ne pas être choqué soit respectée. Donc, dans le jeu social de la vie collective, c'est aussi tenir compte du regard des autres. Voilà, trouver un compromis.
Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Oui, elle peut s'habiller comme elle souhaite, mais il ne faut pas trop exagérer non plus.
Pourquoi ?
Avec le problème qui se passe, c'est-à-dire les agressions. Parce qu'elle peut s'habiller court et dénudée, ça porte un regard sur l'ensemble de d'autres personnes qui ont des mauvaises images ou alors ils ont eu un problème auparavant. On ne sait pas comment ils peuvent réagir, les hommes. Hein.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Oui, c'est de plus en plus, oui. Oui, à l'époque, on ne s'habillait pas comme aujourd'hui. Maintenant, on voit dans les écoles, par exemple, on a des règlements intérieurs qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire venir en classe avec le nombril dénudé en short qui se faisait pas auparavant. Ça devrait quand même être un petit peu moins exagéré. Auparavant, dans le temps, on mettait même des blouses.
Oui.
Vous voyez, tout le monde avait habillé dans la même enseigne, la même blouse. Il n'y a pas de différence.
D'accord.
Ça devrait revenir en arrière.
Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme elle le souhaite selon vous ?
Oui, heureusement.
Pourquoi ?
Parce qu'on est libre, on est... Du moment qu'il y a le respect de l'autre, c'est important. Le respect de l'autre, c'est-à-dire que la femme a une tenue, on va dire, correcte, hein, pas exorbitante ou provocante, hein, parce qu'après ça peut apporter des petits soucis, mais une femme peut s'habiller comme elle le souhaite.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Oui, heureusement. Heureusement qu'elle peut s'habiller librement. Ben parce que nous sommes en République et qu'il y a le droit individuel. Et que si on s'habille, on peut s'habiller comme on le souhaite, tout en respectant les religions, tout en respectant tout. Et les autres, on peut s'habiller comme on le souhaite.
Merci. Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Bah oui, non, une femme peut s'habiller comme elle veut.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on j'estime qu'on est en 2023 et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et sans jugement, sans tout ça quoi.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui non, avec la mentalité des Français, à chaque fois qu'il y a toujours du jugement, soit quand il y a une fille qui s'habille en jupe, c'est une pute, et qu'elle est toujours jugée, elle peut pas s'habiller comme elle veut, du coup bah voilà, non, du coup faut encore évoluer dans le temps.
Est-ce que selon vous, une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Oui.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est la liberté d'expression, chacun s'habille comme il veut.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Pas vraiment.
Pourquoi ?
Parce que déjà il y a les garçons qui pensent un peu trop à des choses bizarres et dès qu'une femme s'habille trop court, il va vouloir faire des choses pas normales et que la plupart des gens pensent que la tenue justifie le viol.
Est-ce que selon vous, une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que genre, c'est la liberté d'expression, je sais pas, genre...
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Oui et non, parce que...
Pourquoi ?
Oui, genre... parce qu'on peut s'habiller comme on veut, c'est une manière d'exprimer, genre, ce qu'on est. Et non, parce qu'il y a des gens qui sont pas ouverts d'esprit et qui pensent que, ils peuvent tout faire parce qu'on s'habille court, quoi.
Est-ce qu'une femme peut s'habiller comme elle le souhaite ?
Oui.
Pourquoi ?
Bah, y a pas de raison qu'il y ait de restrictions sur l'habillement des femmes alors qu'il y en a pas sur celle des hommes.
Selon vous, est-ce qu'une femme peut s'habiller librement en France aujourd'hui ?
Pas dans tous les quartiers.
Pourquoi ?
Lorsque la religion est trop présente, ça pose des contraintes d'habillement.
Pour animer ce débat, nous accueillons deux invités, à qui je laisse la parole maintenant.
Bonjour, je me présente, je suis Manon, élève au lycée Horticole de Blois. Si je suis ici, c'est pour donner mon avis sur le débat qu'on va présenter. Je pense que les filles peuvent s'habiller comme elles le veulent, mais beaucoup de personnes n'ont pas l'esprit ouvert.
Bonjour, moi c'est Kylian, élève du lycée Horticole de Blois. Je vais réagir à l'avis de Manon. Je suis d'accord sur le fait qu'une fille s'habille librement, il y a tout de même des limites à respecter.
Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec Kylian. Comme les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le veulent, et c'est aux hommes de se respecter.
Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'aux hommes de se tenir, car les femmes ne respectent pas la tenue dans les lieux publics en s'habillant trop dans la provocation.
Certes, dans les lieux publics, il y a une sorte de code vestimentaire, mais ce n'est pas une raison pour que les hommes réagissent ou s'autorisent un comportement inadapté.
Donc si on fait un global de vos avis, ça voudrait dire que les hommes doivent respecter les femmes et que les femmes doivent aussi de faire de même.
Et pour finir, Mélissa et Lydie vont nous présenter leur micro-trottoir sur la vision des femmes dans la société d'aujourd'hui.
Bonjour, nous sommes Mélissa et Lydie du lycée Horticole de Blois. Nous allons faire un micro-trottoir sur le thème « Comment les femmes sont vues dans la société ?» Parce que nous demandons si les conditions des femmes ont évolué depuis une cinquantaine d'années. On va aller interroger des personnes de tout âge pour avoir différentes opinions.
Alors je trouve que la femme dans la société, je vois donc un rôle important, donc... Pour moi, il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme dans la société. Pour moi, c'est sans égaux, donc il y a l'égalité entre les deux, bien sûr. Voilà, je vois que la femme, elle s'investit bien donc, dans la société, parce que voilà, c'est on est dans tous les domaines, quoi. Donc je vois qu'il y a un rôle important dans la société, c'est tout, voilà. Donc, c'est, par exemple, on peut trouver, par exemple la femme dans en sciences, on trouve beaucoup donc, voilà, des savants en physique, en maths, beaucoup de domaines dans la médecine, par exemple, voilà.
Comment vous percevez la place des femmes dans la société ?
Eh bien, une place centrale, c'est-à-dire qu'elle est à l'égal de l'homme, et voire même plutôt, on se fie même aujourd'hui plus aux femmes qu'aux hommes, donc peut-être même au premier plan devant les hommes.
En France, les femmes, on peut dire qu'il y a une nette évolution ces dernières années. On peut, par exemple, voir qu'elles évoluent davantage dans le milieu professionnel, notamment dans les postes de direction ou autres. On essaie en France de garantir, en tout cas de conserver un maximum de droits qui ont été accordés aux femmes. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme on a pu le voir aux États-Unis, notamment pour le droit d'avorter.
Je m'appelle Philippe et j'ai entre 40 et 50 ans.
Comment vous percevez la place des femmes dans la société ?
Malheureusement, je la perçois comme étant encore très inégalitaire par rapport aux hommes. Et c'est un grand problème encore aujourd'hui. On croit qu'il y a quelques avancées, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes.
Donc bonjour, j'ai 39 ans et donc on m'a demandé mon avis sur la place des femmes dans la société. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour qu'on soit au même niveau que les hommes dans la société actuelle, même si pour moi on est forcément déjà au-dessus, vu que c'est nous qui donnons la vie. Mais dans les faits, on est quand même payé moins pour les mêmes diplômes, le même travail, ce qui n'est pas normal. Voilà, il y a encore, même si les mentalités changent, il y a encore de gros efforts à fournir.
Bonjour, ça c'est une question quand même à des gens de mon âge. Non, je blague. J'ai 50 ans. Je suis un homme, je m'appelle Christophe Fort, je suis conseiller principal d'éducation au lycée Horticole de Blois et je suis aussi comédien.
Comment vous percevez la place de la place des femmes dans la société ?
Eh bien, j'aimerais pouvoir la percevoir comme quelque chose de tout à fait égalitaire. Si on parle de place de femmes, ça veut dire c'est pas qu'on l'oppose, mais en tout cas on l'interroge par rapport à la place de l'homme ou des hommes dans la société. J'imagine qu'on parle de la société française. Je pense que la place de la femme dans la société française n'est absolument pas la même que la place de la femme dans d'autres sociétés ou d'autres cultures. Donc la question du genre, c'est quelque chose d'éminemment culturel, certainement. Ce qui est certain, c'est qu'en France, on a un désir, un objectif, un idéal républicain, consiste à faire des citoyens des personnes libres et égaux en droit. Et par citoyen, j'entends aussi citoyenne, ce qui veut dire que les hommes et les femmes devraient être libres et égaux dans toutes les tranches de la population et toutes les tranches de la société. Le fait est que ce n'est pas le cas. On se rend bien compte que sur la question des rémunérations, de l'accès aux postes à responsabilité, de tout un tas d'autres choses, les femmes et les hommes ne sont pas tout à fait également traités. La société doit faire d'énormes efforts. Enfin, quand je dis d'énormes efforts, c'est pas tant que ce soit difficile à faire, mais en tout cas doit véritablement réinterroger à plein d'endroits pourquoi et comment il y a une différenciation de genre entre garçons et filles, et puis d'une manière générale d'ailleurs sur d'autres axes, des différenciations sociales, des différenciations liées à la culture. Et en fait on devrait parler uniquement de citoyens, point, et pas d'hommes ou de femmes. Tout ça s'appuie sans doute sur des habitudes liées à une société patriarcale. Patriarcale, ça veut dire qu'elle est conduite et faite par les hommes pour les hommes, un petit peu comme des pères de famille, avec des modèles sans doute hérités de l'homme de Cro-Magnon. On pense que l'homme est plus fort que la femme, que la femme est plus sensible que l'homme, ce qui est complètement faux, hein, en vérité. Même s'il y a évidemment des différences, et ça, on ne va pas les nier. Hein. L'égalité, c'est pas faire fi des différences. Les différences existent, mais pour autant, on devrait, dans une société qui se veut égalitaire, comme la République française, on devrait être égaux en droit et en accès à la responsabilité.
Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 17 ans et du coup pour répondre à la question, en vrai je trouve que la place des femmes est de plus en plus mise en avant dans la société, mais que la France a quand même une histoire ancrée avec le patriarcat, mais ça se démocratise de plus en plus, et les femmes sont de plus en plus mises en avant et en valeur, et voilà, c'est tout.
Bonjour, je m'appelle Noah et j'ai 16 ans.
Comment vous percevez la place de la femme dans la société ?
Je perçois la place de la femme dans la société. La place de la femme, pour moi, elle a autant sa place qu'un homme. Elle peut être partout, elle peut faire les mêmes travaux, ou elle peut faire aussi les tâches ménagères, mais l'homme aussi peut le faire. Pour moi, la femme a sa place partout et on ne devrait pas accorder des places directement aux femmes tout ça parce que c'est une femme ou c'est un homme.
Laurence, 42 ans.
Alors, comment je perçois les femmes dans notre société actuellement ? Je les perçois en ébullition. J'ai l'impression qu'on est dans une période où ça boue chez les femmes, et c'est bien. Et qu'effectivement, il y a eu des avancées dans les droits des femmes, mais que c'est absolument pas suffisant. Et que là, on est effectivement à un moment où c'est plus délicat, peut-être, pour faire avancer les choses. Mais que c'est essentiel. Et que du coup, il y a une mobilisation, je trouve, plus forte en ce moment des femmes, pour qu'à un moment donné, elles soient qu'elles aient exactement les mêmes droits que les hommes et qu'on arrive enfin à cette égalité, mais de tout niveau, et qu'on arrive enfin aussi à considérer la femme en tant qu'être à part entière au même titre que l'homme.
Donc ma tranche d'âge, j'ai 60 ans, et votre question, c'est comment je perçois les femmes dans la société.
Oui.
Alors la société, déjà, c'est grand. Tout dépend si vous la limitez à la France, à l'Europe ou au monde, puisque toutes les femmes n'ont pas la même place la même place dans la société. Donc si on se centre sur la France, je pense que les femmes ont leur place pleine et entière et évoluent de la même manière que les hommes, à savoir qu'elles ont du travail, qu'elles sont des fois autonomes financièrement, qu'elles ont accès aux études, qu'elles font des études. Je dirais même que les statistiques montrent que les femmes ont des résultats plus brillants dans les études que les hommes. Ensuite, on a la place des femmes en Afrique. La conception, elle n'est pas tout à fait la même. Si on part en Asie, non plus. Et aux États-Unis, je dirais que la femme a sa place pleine et entière, pareil qu'en France. Voilà.
Nous pouvons conclure que toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont dit que la place de la femme dans la société avait évolué, mais certaines personnes ont mentionné que sur certains points, les femmes n'est pas forcément égalitaire par rapport aux hommes.
Et bien voilà, c'est maintenant la fin de cette émission. Nous allons remercier toutes les personnes qui auront participé à cette émission, à vous aussi qui aurez écouté cette émission avec nous. Et pour nous séparer, nous allons écouter une musique de Balance ton quoi d'Angèle.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, pas les te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, pas les te faire en oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire en. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein.
Moi ce que j'ai compris, en fait...
Pardon,
c'est que les groupes...
Ouais, je te coupe. C'est juste parce que il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on ne sait pas, du coup, si on peut, si on ne peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
Non, non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi ? Un problème ?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Ah, écoutez, vois, moi, j'écoute pas les femmes,
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure.
Excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi ? Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
Désagréable.
On parlait du désir.
Allez,
c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein, coupeuse.
Laisse-moi te chanter, aller te faire en... Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Poli pour la télé, mais va te faire en... Balance ton croix. Balance ton croix. Balance ton croix. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.